Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. C'est un événement pour ceux qui intéressent l'histoire contemporaine, l'histoire de l'Église, la philosophie et la théologie. Les éditions du CERF viennent de publier en 2006 deux ouvrages essentiels d'un homme qui est l'une des grandes figures de l'Église contemporaine, le cardinal Henri de Lubac. Le 34e volume de ses œuvres complètes, un volume intitulé « Résistance chrétienne au nazisme », est la réédition d'un des ouvrages les plus connu du cardinal de Lubac, sans doute parce qu'il est l'un des plus accessibles au grand public, « Mémoire sur l'occasion de mes écrits ». C'est donc l'œuvre du cardinal de Lubac que nous allons évoquer maintenant, en compagnie de deux invités, le père Georges Chantraine, membre de la Compagnie de Jésus, biographe du cardinal de Lubac et co-directeur de ses œuvres complètes. Père Chantraine, je veux vous remercier tout chaleureusement et tout particulièrement puisque vous êtes venu, je crois, de Belgique spécialement pour cette émission de Canal Academy. Bonjour. Et Monsieur Jacques Delarosière, que nos auditeurs connaissent bien par ailleurs et dont ils apprécient les analyses économiques et financières. Je rappellerai simplement que vous avez été directeur du Trésor, directeur général du Fonds monétaire international et gouverneur de la Banque de France, mais que vous êtes ici et que vous allez vous exprimer en tant que président de l'Association internationale Cardinal Henri de Lubac. Monsieur Delarosière, il faut dire d'emblée que vous avez succédé au cardinal de Lubac à l'Académie des sciences morales et politiques où vous siégez depuis 1993. Vous avez donc été amené, comme le veut la tradition, à prononcer son éloge. Connaissiez-vous le père de Lubac avant de vous pencher sur sa vie et sur son œuvre pour rédiger votre hommage?
Non, pas du tout. Je ne le connaissais pas et je n'avais d'ailleurs pratiquement pas lu le cardinal de Lubac. Il a donc fallu que je pénètre dans cette œuvre d'une cinquantaine d'ouvrages, ce que j'ai fait. Et je crois que je me suis beaucoup enrichi ce faisant.
Cette découverte a été importante pour vous personnellement?
Absolument.
Pour l'instant, alors nous parlons donc de cette Association internationale Cardinal Henri de Lubac. Je disais que vous en étiez le président et vous, Père Chantraine, le vice-président. Comment est née cette association? Quel est son objectif?
Alors, l'objectif de l'association, qui a été créée en 1994, est de promouvoir, de diffuser, de faire connaître la pensée du cardinal de Lubac à travers le monde. D'où le titre « Association internationale cardinal de Lubac ». Ce n'est pas un philosophe ou un théologien français, c'est vraiment un théologien et un philosophe de l'humanité tout entière. Alors, nous avons donc, avec le père Chantraine et une petite équipe de spécialistes professionnels, de gens qui connaissent le cardinal de Lubac, beaucoup mieux que moi, nous avons constitué un petit groupe et nous avons commencé à faire des colloques pour mieux faire connaître cette pensée. Et puis un jour, c'était à l'Institut, ici même, nous avions un colloque dans la salle Hugo et au premier rang du colloque était le cardinal Lustiger. Et cardinal Lustiger a écouté le colloque, est intervenu brillamment et à la fin de son intervention, je vois encore la scène, il nous regardait tous les deux et il nous a dit « Mais vous avez manqué l'essentiel. C'est bien de faire des colloques, mais la vérité, c'est que l'œuvre du cardinal de Lubac, ces 50 livres qu'il a écrits tout au long de sa carrière, ils deviennent inaccessibles, on ne peut plus les trouver, ils sont répartis chez plusieurs éditeurs, et cette pensée va mourir si vous ne la ressuscitez pas, c'est-à-dire si vous ne publiez pas les œuvres complètes du cardinal de Lubac. » Alors là, l'association a pris un nouveau souffle, c'était en 1997, ça, 16. A pris un nouveau souffle, parce que nous avons été défiés par le cardinal Lustiger. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester les deux pieds dans le même sabot, il faut qu'on fasse quelque chose. Et alors, c'est là qu'a commencé l'aventure de la republication des œuvres complètes. Nous avons trouvé un éditeur merveilleux, le CERF, avec le Père Cède, qui, ayant connu le cardinal de Lubac, et connaissant son œuvre, a été lui-même galvanisé par cette entreprise, qui n'est pas une entreprise commerciale évidente, hein, je le souligne. Et finalement, nous avons lancé cette réédition, et nous avons maintenant publié une douzaine d'ouvrages sur la cinquantaine. Alors c'est encore un début.
Après voilà, ça, je vois qu'il y a encore un programme pour les mois à venir en termes d'édition. Combien de membres compte l'association ?
Alors je vais peut-être passer la parole au père Chantraine, qui connaît mieux les détails que moi.
Autour de 200.
De 200, donc de 200 oui. Amis du père de Lubac. Alors, père Chantraine, vous êtes jésuite, comme l'était oui. Le cardinal de Lubac. Vous êtes entré dans la Compagnie de Jésus en 1951 et vous êtes docteur en philosophie, en théologie, professeur de théologie dans diverses universités et vous avez fondé la faculté de théologie de Lugano. Avez-vous connu personnellement le père de Lubac ?
Oui, certainement, parce qu'en 1960, au début de ma théologie, j'avais un problème irrésolu qui était le rapport entre histoire et esprit. J'ai lu pendant les cours Exégèse médiévale, un des ouvrages du père de Lubac, et au chapitre 5 de ce premier ouvrage, j'ai trouvé la solution à mon problème. Et du même coup, j'ai pu faire des livres d'histoire et de théologie parce que le père de Lubac m'avait éclairé.
Et vous êtes devenu ami, je suppose, au-delà d'une relation élève, de disciple, vous êtes devenu ami, au point qu'il vous a nommé son légataire.
Ses papiers, comme il disait, ça veut dire tout ce qu'il avait conservé et qui se trouve maintenant entreposé à Namur dans un centre d'archives et d'études Henri de Lubac.
Quelques tonnes de papiers ?
De tonnes, c'est peut-être beaucoup. Mais quelques centaines de kilos, oui, certainement.
Voilà, assez pour vous occuper largement,
assez
j'ai l'impression.
Assez pour m'occuper, moi et un secrétaire, oui.
Bon, alors je vais juste donner un petit rappel du parcours du père de Lubac avant que nous puissions aborder quelques-unes des périodes les plus importantes de sa vie. Donc, Henri Saunier de Lubac est né à Cambrai en 1896 et il est décédé en 1991. Il entre dans la Compagnie de Jésus juste à la veille de la Grande Guerre, en 1913. Il avait 17 ans, après une année de droit, et il est mobilisé en 1915. Et il est d'ailleurs blessé à l'oreille en 1917. Il achève ses études en Angleterre, il est ordonné prêtre en 1927 et il commence alors à enseigner essentiellement aux facultés catholiques de Lyon avant la Seconde Guerre mondiale, au cours des années de guerre et d'occupation, puis quelques années après la guerre, jusqu'en 1950, date à laquelle, mais nous allons y revenir, il a été interdit d'enseignement. Alors, son premier livre s'intitule « Catholicisme, les aspects sociaux du dogme ». Il est paru en 1938, c'est bien ça, père Chantraine, si jamais ma documentation n'était pas bonne,
non,
vous réagissez.
Parfait.
Et en 1958 ou 59, selon qu'on considère la date d'élection ou la date de réception, il devient membre de l'Académie des sciences morales et politiques et il deviendra cardinal en 1983. Alors, nous allons donc considérer quatre périodes dans la vie du cardinal. La première période, c'est celle de l'occupation, c'est-à-dire les années 40. Alors, père Chantraine, pourquoi, au moment de cette invasion du nazisme, pourquoi le père de Lubac a-t-il éprouvé ce besoin d'écrire sur la résistance au nazisme ? Parce que c'est cela qu'il a écrit pendant ces années, n'est-ce pas ?
Oui, certainement. Parce que depuis quelques années, grâce au père Fessard, un grand philosophe et théologien, et au père Chaillet qui avait été à Munich, il était angoissé, peut-on dire, par le racisme du national-socialisme et par son antisémitisme qui atteignait directement la révélation chrétienne elle-même.
Je lis qu'il disait du national-socialisme « la plus formidable entreprise pour chasser le Christ de notre humanité ». Il appelle donc à une résistance spirituelle.
C'est le mot important, spirituel. Ce n'était nullement politique. Il a été contacté par un frère du général de Gaulle pour s'affilier à la France libre, mais il a refusé parce que sa résistance était spirituelle et non pas politique.
Alors, je voudrais citer ici un court extrait d'un hommage qui est rendu au cardinal de Lubac par son confrère à l'Académie des sciences morales et politiques, le cardinal Ratzinger, qui deviendra plus tard, enfin qui est depuis devenu le pape Benoît XVI. Donc, je cite ce qu'en dit le cardinal Ratzinger. Le père de Lubac était un des inspirateurs courageux de la résistance en France pendant la guerre. Il avait lutté contre l'idéologie du mensonge et de la violence. La vérité est aussi un glaive contre le mensonge. Et le père de Lubac n'a pas eu peur de diriger ce glaive contre le mensonge dans l'Église et hors de l'Église, avant et après le Concile. Et monsieur de la Rosière, vous avez un autre témoignage du cardinal de Ratzinger à propos du cardinal de Lubac. Il faut dire qu'il s'était connu et apprécié, je crois, beaucoup. Si vous voulez bien nous lire ce passage.
Oui, il y a quelques années, à Rome, lors d'une remise de prix de théologie, le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore élu pape, a pris la parole pour parler du cardinal de Lubac, parce que le prix de théologie en question s'appelait le prix Henri de Lubac. Et il a un peu improvisé, il avait quelques notes, il a un peu improvisé un texte que nous avons ensuite repris. Et voilà ce qu'il disait en particulier. « Pour mon chemin personnel, disait le cardinal Ratzinger, spirituel et théologique, la rencontre avec les œuvres et la personne du père de Lubac fut d'une importance fondamentale. Déjà en 1948, quand les fenêtres de l'Allemagne détruites par la guerre commençaient à s'ouvrir, je pouvais lire le fameux livre « Surnaturel », point de référence d'une discussion très animée. J'ai admiré cette nouvelle interprétation de saint Thomas d'Aquin, assez différente du saint Thomas de la philosophie néo-scolastique que nous avions étudiée jusqu'à ce moment. Cette nouvelle anthropologie dynamique comprend l'existence humaine comme mouvement du désir de voir Dieu. Unir d'une manière tout à fait nouvelle le don libre, justement surnaturel, de l'amour du Seigneur au dynamisme fondamental d'une créature qui est essentiellement image de Dieu, donc attente de l'amour infini. Cette vision anthropologique était fascinante. Elle l'était non seulement sur le plan intellectuel, mais également sur le plan spirituel, car j'y ai trouvé une nouvelle lumière pour ma propre vie spirituelle. Je dirais que cette synthèse entre rigueur scientifique et spiritualité est un aspect fondamental de toute la théologie du père de Lubac.
Merci, monsieur de la Rosière. Je voulais seulement préciser que ce texte que vous venez de nous lire, donc du cardinal Ratzinger témoignant sur le cardinal de Lubac, est publié dans le bulletin de l'Association internationale Cardinal Henri de Lubac, association dont vous êtes le président. Alors, Père Chantraine, revenons, si vous voulez bien, aux années 40, alors que la nuit nazie s'étend sur la France. C'est une citation aussi, je crois, du père de Lubac. Il lance les cahiers du témoignage chrétien pour cette résistance spirituelle. Pouvez-vous nous parler de cette aventure ? C'est une vraie aventure.
Oui, il les lance avec le père Chaillet, qui est le directeur de ces choses-là. Il le fait dans la clandestinité, parce qu'il est évident que l'ensemble des choses qu'il devait dire ne pouvaient pas être acceptées par la censure française ni allemande. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de faire valoir la vérité, à savoir que l'homme est appelé par Dieu et que donc on ne peut pas supprimer la réalité juive de l'histoire sans toucher à la révélation directement et qu'on ne peut pas non plus baser une culture sur la race qui est simplement un élément d'une anthropologie complète. Ils ont publié un certain nombre de cahiers, ils sont maintenant repris dans Résistance chrétienne au nazisme, alors qu'ils étaient publiés de manière clandestine. Ils sont maintenant, pour la première fois, publiés de manière à ce que tout le monde puisse le lire.
Donc le premier cahier est sorti en novembre 1941 avec un célèbre article du père Fessard, justement, qui dit « France, prends garde à ne pas perdre ton âme ». Ou c'est peut-être, je ne sais pas si c'est celui-ci exactement, parce qu'il en a fait plusieurs sur le même sujet, modèle. Et il y a eu donc 29 numéros jusqu'en 1944. Pour comprendre quel était l'esprit des cahiers du témoignage chrétien, je vous propose d'écouter la lecture d'une déclaration tirée du cahier 10-11 intitulée « Collaboration et fidélité », imprimée et diffusée en novembre 1942. Les cahiers témoignent pour des chrétiens qui ont pleinement conscience de leurs responsabilités présentes, qui, engagés dans la tragédie de leur temps, perçoivent l'immense péril de voir étouffer cet esprit chrétien qui les a formés, de voir enchaîner cette liberté de l'esprit chrétien sans lequel aucun pouvoir ne pourra sauver l'âme de la France, ni même sa chair. Péril de l'envoûtement progressif réalisé par la propagande nazie, qui trouve chez nous trop de serviteurs, conscients ou inconscients. Péril des mensonges et camouflages quotidiens de la presse, de la radio, du cinéma. Péril des silences imposés par une censure que domine le pouvoir occupant ou contrôlant. On dira peut-être que l'erreur nazie n'est pas la seule et qu'il y a d'autres périls. Nous ne le contestons pas. Mais pour dénoncer ces autres périls, la liberté de la parole et de la plume reste entière. Il y a même bien des manières de les combattre qui ne font que les aggraver. Nos cahiers portent leur témoignage là où nulle voix ne peut se faire entendre publiquement, là où la tentation est plus immédiate ou plus enveloppante. Il demeure strictement sur le plan chrétien. Il ne donne aucune consigne politique parce que ce n'est point leur affaire et parce que la fidélité chrétienne ne suffit pas à elle seule et directement à déterminer les options politiques. Si dans l'actuel désarroi des esprits et dans le trouble des consciences, en face de la veulerie d'un trop grand nombre dont on attendait plus de dignité, ils se sentent unis à tous ceux qui ne se résignent pas à laisser avilir la France, c'est que le patriotisme est une vertu, c'est que fidélité chrétienne et honneur national sont intimement associés. Mais les cahiers ne sortent pas pour autant du seul terrain qui est le leur. Nous attestons, et nul ne peut le contester sérieusement, que toute collaboration économique ou politique avec la puissance nazie dans des circonstances où collaboration signifie suggestion, entraîne un proche danger de suggestion dans le domaine de la culture. Or, la culture nazie est foncièrement antichrétienne et ni les déclarations répétées des chefs nazis, ni leurs actes renouvelés ne sont à cet égard le moins du monde rassurant. Nous voulons donc montrer à tous les chrétiens et tout autant à ceux qui, sans être croyants, sont attachés, plus qu'ils ne le pensent, au principe d'une civilisation chrétienne, que sur le plan de l'esprit, le devoir est de résister et d'organiser la résistance au nazisme. Plus celui-ci fera peser fortement sa domination sur la France, plus il importera que cette résistance spirituelle devienne lucide et ferme. Nous sommes de simples chrétiens, nous ne parlons au nom d'aucune autorité, mais nous cherchons à informer honnêtement les consciences. Nous rapportons les directives doctrinales émanées des chefs de l'Église. Ce faisant, nous accomplissons le devoir qu'a tout croyant, engagé dans la vie temporelle, de porter témoignage de sa foi, de la garder contre la corruption, de la défendre quand elle est menacée. Ce serait une grande erreur, fruit d'une grande lâcheté, que d'attendre, pour le faire en toutes circonstances, d'en avoir reçu officiellement la mission. Les cahiers du témoignage chrétien sont le témoignage de chrétiens nombreux et divers qui, sans arrière-pensée politique et sans prétendre engager d'aucune manière la hiérarchie, s'engagent à fond comme chrétiens. Nous allons marquer, si vous le voulez bien, Monsieur de la Rosière, Père Chancrenne, une courte pause et reprendre notre entretien au sujet du cardinal de Lubac dans quelques minutes. L'espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre. Retour dans le studio de Canal Académie où nous poursuivons notre entretien avec Jacques de la Rosière, président de l'association internationale Henri de Lubac et le père Georges Chantraine. Père Chantraine, en même temps que les cahiers du témoignage chrétien, sortent aussi, sous l'impulsion du père de Lubac, une collection qui s'intitule « Sources chrétiennes ». Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui. Elle trouve son origine chez le père Victor Fontoinon, qui est un helléniste, un hébraïsant. Il a comme le père de Lubac et le père Danielou, la conviction profonde que l'on ne peut pas connaître la révélation chrétienne si on n'étudie pas dans l'Écriture, bien sûr, mais aussi à travers ce que les pères de l'Église en ont dit depuis le IIe siècle jusqu'aux environs du VIIIe. Et l'objet premier des sources chrétiennes, c'est de mettre directement à la portée du public des œuvres traduites en langue française. Ce n'est pas du tout ce que les sources chrétiennes font maintenant, n'est-ce pas qu'ils sont... C'est une édition tout à fait scientifique. Ça leur sera reproché dans une étape ultérieure dont nous aurons à parler tout à l'heure.
Absolument. Et alors, on voudra signaler aussi un ouvrage donc important du père de Lubac, publié en 1944, puisqu'on est toujours dans cette période. C'est le drame de l'humanisme athée. Quelques mots, père Chantraine, sur cet ouvrage.
Ça appartient à la résistance chrétienne au nazisme. Il s'agissait de trouver chez un certain nombre d'auteurs, en particulier d'un maître du soupçon, Feuerbach, ou bien au contraire chez un Dostoïevski, comment l'homme se situe devant Dieu et comment, pour dire en un mot la pensée du père de Lubac, plus l'homme se détache de Dieu, moins il devient homme lui-même, en sorte que l'on peut dire, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme lorsque Dieu disparaît.
Juste après la guerre, donc 1946, il publie un ouvrage qui s'intitule « Surnaturel ». Et alors là, je crois que cet ouvrage va déclencher un conflit important dont j'aimerais bien que vous nous expliquiez, père Chantraine, le pourquoi et le comment.
Une première chose qui est un préambule, c'est que l'après-guerre est une période d'efflorescence de pensée et de mouvement en France extraordinaire. C'est ça le contexte du surnaturel. Le livre lui-même est assez ancien. Il a un aspect technique dans lequel je ne vais pas entrer. Ce qui est au cœur de cette pensée, c'est qu'il y a entre Dieu et l'homme, une relation immédiate, que Dieu crée l'homme libre comme un esprit, et que c'est en tant qu'esprit que l'homme est capable de connaître Dieu et d'en avoir, comme dit saint Thomas, le désir naturel. Il ne s'agit pas là d'une question technique, mais vraiment de ce qui est le ressort même de la pensée chrétienne dans la mesure où elle concerne l'homme et Dieu. Dès que l'on introduit entre Dieu et l'homme un intermédiaire, on peut appeler ça un concept, n'est-ce pas ? On peut appeler ça tout moyen pour atteindre Dieu en dehors de ce mouvement même de l'esprit. À partir du moment où on fait cela, eh bien, techniquement, on sépare la philosophie de la théologie. Et on peut provoquer des déviations ou des affadissements de la foi chrétienne.
Alors, surnaturel, ce livre du père de Lubac génère des réactions assez vives, il faut le croire, puisque le père écrit dans son ouvrage « Mémoire sur l'occasion de mes écrits », il écrit « Les réfutations de surnaturel se multiplient ». Et après, il dit que ce conflit l'oppose à une toute puissante école de théologie pour laquelle toute la révélation chrétienne constituait un ordre surnaturel tellement à part qu'il était interdit d'y recourir en aucun des grands débats humains de notre époque. Et on accuse le père d'erreurs pernicieuses sur des points essentiels du dogme. Alors c'est quand même une accusation gravissime pour un théologien. Alors pourquoi ce conflit, justement? Comment est-ce que la pensée du père de Lubac n'était pas tout à fait conforme à celle des théologiens auparavant?
On peut le dire de deux manières différentes. Elle n'était pas conforme à ce que les théologiens disaient avant, parce que ces théologiens avaient eux-mêmes mal interprété les textes les plus clairs de saint Thomas. Ils se trouvaient très étonnés que l'on puisse dire de saint Thomas autre chose que ce qu'ils disaient eux-mêmes. Là, il y a un aspect de conflit d'autorité entre deux écoles théologiques. L'autre aspect, c'est celui dont j'ai déjà parlé, à savoir beaucoup de ces théologiens ont construit une idée de la révélation qui n'était plus en prise directe sur Dieu elle-même. Et du même coup, ils se sont imaginés que le père de Lubac revenant précisément aux sources vives et premières de la révélation, et pu construire une théologie qui leur paraissait du même coup hétérodoxe, puisqu'elle n'était pas celle qu'ils avaient eux-mêmes élaborée en système théologique.
Donc, on a parlé au sujet du père de Lubac de la nouvelle théologie nouvelle ou de l'école de Fourvière, et il détestait cette expression, n'est-ce pas ?
Mais elle venait du père Garrigou Lagrange, dominicain, qu'il avait prononcé un peu avant un discours du pape Pie XII en 1946, et qui était une critique violente de cette école de Fourvière dont le père de Lubac ne faisait du reste pas partie.
Alors, monsieur de la Rosière, ici, dans ce studio, nous parlons du père de Lubac, on a l'impression qu'on évoque un conflit d'intellectuels. Mais en vérité, je crois que ça a été une véritable souffrance pour le père de Lubac. Pendant de nombreuses années, il a été attaqué et peut-être mal compris ou mal admis, en tout cas.
Oui, il a été d'abord interdit d'enseignement et il lui a été interdit d'écrire des ouvrages de théologie. Ce qu'il a fait, parce que ça a été un homme d'une très grande fidélité à l'Église et d'une grande obéissance, ce qu'il a fait. Cela d'ailleurs nous a donné, cette période de désert théologique, nous a donné de très beaux livres du père de Lubac, parce qu'il ne lui était pas interdit d'écrire sur d'autres sujets.
Oui, mais pas sur la théologie.
Voilà. C'est là qu'il a écrit des livres sur le bouddhisme, sur Dostoïevski, sur... Proudhon, sur Dieu, mais il s'est tenu à l'écart des doctrines théologiques. Et ce que j'ai toujours admiré, c'est que cet homme très sensible, qui a été extrêmement peiné des critiques que vous venez de rappeler, d'autant plus que ces critiques étaient très pernicieuses, elles ne disaient pas seulement qu'il se trompait du point de vue théologique, elles disaient que le père de Lubac... essayait de faire croire qu'il était « orthodoxe », entre guillemets, tout en ne l'étant pas. Et donc, il y avait une critique très perverse du père de Lubac lui-même. Et il en a donc été meurtri. On le voit d'ailleurs, on voit cette meurtrissure dans le livre que vous avez évoqué, qui s'appelle « Mémoire sur l'occasion de mes écrits ». Mais il ne s'est jamais rebellé, il ne s'est jamais révolté. Il a toujours suivi les ordres de l'Église. Et je trouve qu'il y a dans cet attachement à l'Église et à sa compagnie, du reste, qui lui avait pourtant causé grand tort, quelque chose d'assez beau, finalement.
Oui, parce que j'allais vous poser cette question. Ces ennemis, entre guillemets, ou en tout cas ses opposants, étaient-ils des gens de l'Église, de la hiérarchie ou du pouvoir ecclésiastique, ou étaient-ils aussi des membres de la compagnie de Jésus ?
Là, il va vous répondre, le père Chantraine.
Oui. Il y a eu au moins trois théologiens qui étaient jésuites, qui lui étaient opposés, le père de Breuil, le père Boyer, le père Danis, pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, à savoir que le système théologique qu'ils avaient construit ne s'accordait pas avec cette pensée plus traditionnelle qui était celle du père de Lubac, avec la leur qui, au fond, était plus nouvelle. S'il y avait une nouvelle théologie, c'était plutôt la leur.
Absolument. C'est d'ailleurs un peu un paradoxe que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Le père de Lubac, il s'ancre dans la tradition des pères de l'Église et en même temps, on dit, il invente une théologie nouvelle. Comment modernité et tradition se concilient-elles chez lui, justement ?
Oui, ça c'est une vaste question qui, au fond, embrasse toute l'œuvre du père de Lubac. C'est parce que lorsque d'abord il lit l'Écriture, il essaie de comprendre ce que Dieu dit à l'homme. Et lorsqu'il étudie un homme qui parle de Dieu, que cet homme soit un théologien comme Grégoire de Nyssa ou saint Thomas, ou qu'il soit un bouddhiste, il se demande qu'est-ce que cet homme peut bien dire qui puisse, venir de Dieu, pour le dire en termes simples. Et c'est ça qu'il entend. Lorsqu'il lit Dostoïevski ou Proudhon ou un auteur plus récent, c'est la même question qu'il se pose, si bien qu'il n'y a pas chez lui de contraposition entre ce qu'on appelle des sources chrétiennes qui seraient anciennes et des réalités modernes. C'est toujours la même pensée vivace et cette même source de pensée qu'il est en train d'interroger.
Père Chantraine, au moins durant cette période de conflit, donc toute cette période après-guerre pour le père de Lubac, était une période très dure et très douloureuse, au moins il y a une bonne chose, ce sont ses relations avec l'archevêque de Milan, Monseigneur Montigny, qui allait devenir le pape Paul VI. Est-ce que vous avez aussi quelque chose à nous dire sur ces relations particulières?
Mais ces relations sont d'abord antérieures à l'élection de Monseigneur Montigny au siège de Milan. Déjà, quand il était substitut à la secrétaire d'État, il avait remarqué la valeur éminente du père de Lubac et l'avait autant qu'il le pouvait protéger. C'est lui également qui, en 1953, a remarqué Méditation sur l'Église et qui l'a beaucoup apprécié, encore comme pape, n'est-ce pas ? C'était un livre de chevet du pape Paul VI. C'est lui qui, devenu archevêque, a réussi à le faire traduire en italien alors que certains autres s'y opposaient. Il a distribué à ses prêtres pour le faire connaître. Et toujours, il a eu une affection profonde qui n'était pas simplement un sentiment, mais une vénération pour la pensée théologique du père de Lubac qui le lui rendait largement.
On va revenir dans un instant sur le pape Paul VI parce qu'on a effectivement l'occasion d'en reparler. Je voudrais maintenant vous proposer, après une courte pause, d'aborder une troisième période de la vie du père de Lubac, c'est-à-dire les années 60, les années du Concile Vatican II.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Rénac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des Sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des Beaux-Arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Nous revenons en compagnie de M. Jacques de la Rosière, président de l'Association internationale Cardinal Henri de Lubac et du père Georges Chantraine, biographe du cardinal de Lubac. Nous revenons sur ces années 60 qui sont, après cette longue affaire embrouillée, c'est-à-dire toute cette période de conflit dont nous venons de parler, qui sont tout de même des années un peu plus d'apaisement. Alors en 1958 ou 59, parce que ça dépend si on considère l'élection ou la réception, le cardinal de Lubac est élu à l'Académie des sciences morales et politiques, où il succède, M. de la Rosière, à Mgr Chevreau, curé de Saint-François-Xavier. Voulez-vous que je vous lise ce que le père écrit à propos de l'Institut, M. de la Rosière ? À l'Institut, milieu très panaché, entre guillemets, je trouvais bon accueil auprès de tous et je contractais ou je resserrais des liens d'amitié précieuses. J'y retrouvais Gabriel Marcel, Martial Guéroux, le pasteur Marc Bugner et j'y fis la connaissance de Léon Noël qui devint bientôt un véritable ami. Parmi ceux qui nous rejoignirent ensuite, je nommerai Victor Tapier, Robert Garrick et Henri Gouillet, avec qui je renouais de vieilles relations. Certains de ces noms vous sont familiers, Monsieur de la Rosière.
Tout à fait. Mais malheureusement, je n'ai pas connu la plupart de ceux que vous avez signalés, sauf Robert Garrick, qui est un homme que j'ai connu quand j'étais moi-même très jeune, à la fin de la guerre, en 1944-1945, c'était un homme qui animait à l'époque ce qu'on appelait les équipes sociales. Et c'est un homme qui a eu un rayonnement intellectuel et moral assez extraordinaire. On dirait aujourd'hui qu'il avait un charisme étonnant. Donc, ça m'intéresse de voir que vous l'avez signalé comme un des membres de l'Académie.
Ce n'est pas moi, c'est le père de Lubac qui en parle. En 1960, c'est le pape Jean XXIII donc, qui décide de réunir le Concile Vatican II et qui fait appel au père de Lubac. Alors, père Chantraine, est-ce qu'on peut rappeler les circonstances de cet appel à participer au Concile?
C'est une affaire étrange parce que Mgr Roncalli était nonce à Paris pendant ces années difficiles, Et apparemment, il n'est pas intervenu, il n'était peut-être même pas très favorable, je ne sais pas. Mais devenu pape, il a voulu que toute cette période embrouillée dont faisaient partie le père de Lubac et le père Conguer cesse. Et il a nommé les deux théologiens que je viens de citer comme experts au concile.
À la préparation du concile. Alors je vais vous raconter, je vais vous lire, puisque j'ai trouvé dans le livre « Mémoire sur l'occasion de mes écrits », j'ai trouvé comment ça s'est passé. Au mois d'août 1960, passant par un bourg du Dauphiné, où mon compagnon devait s'arrêter pour confesser quelques religieuses, au parloir où je l'attendais, je lus dans la croix du jour la liste des théologiens choisis par le pape comme consulteurs à la commission théologique préparatoire au concile. Mon nom y figurait, ainsi que celui du père Yves Congar. C'était deux noms symboliques. Voilà. On n'imagine pas qu'on puisse être appelé au concile comme ça, simplement par un article dans le journal. Donc voilà, le père de Lubac maintenant va siéger au titre d'expert durant 6 années consécutives. Il va se rendre à Rome, où entre parenthèses, il avait été un peu interdit d'aller auparavant. Il va assister régulièrement aux séances de la commission théologique. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de son apport, justement, de son travail dans cette commission? Comment on peut résumer cette partie-là de sa vie?
Deux choses. D'abord, la première, avant le concile lui-même, comme à peu près tous les consulteurs, il n'avait rien à dire. Il a évité simplement d'être à nouveau condamné grâce à une intervention écrite qu'un de ses confrères avait rédigée pour que le concile l'approuvât. C'est la première chose. La deuxième, il est un peu difficile parce qu'aucune étude précise n'a été faite sur le sujet, de dire quel était l'apport du père de Lubac. Ce qui me semble assez clair cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est que ce que le père de Lubac a toujours voulu, à savoir sortir d'une théologie tout à fait notionnelle, pour en revenir à la révélation, à la réalité qui nous est donnée, c'est certainement cela que le Concile lui-même a voulu faire à partir du moment où il s'est détaché de tous les textes qui avaient été préparés par la commission préparatoire. Et le texte peut-être le plus clair et qui reflète le mieux la pensée du père de Lubac, c'est un texte qu'il a commenté, à savoir le De Verbum Dei, la constitution sur la révélation.
Point théologique évidemment extrêmement important,
oui.
Je m'en doute. Le père de Lubac a été en conflit avec l'Église et évidemment ça nous évoque une autre figure qui est le père Teilhard de Chardin. En 1962, le père de Lubac écrit un ouvrage sur le père Teilhard de Chardin. Évidemment, ça suscite l'émoi au Saint-Office, on s'en doute. Un petit mot sur ses relations, sur cette écriture. Il faut dire que le père Teilhard était tout de même d'une génération antérieure, n'est-ce pas?
Tout à fait, comme le père Valencin. C'est le début des relations avec le père Teilhard commence en 1922. Mm-hmm. Il connaît à peu près tout ce que le père Teilhard a écrit. Il a demandé à plusieurs reprises à son provincial de pouvoir écrire à partir du moment où on publie les œuvres complètes du père Teilhard. Refus répété du provincial, jusqu'à ce que le père général se rende compte dans la commission générale de préparation du concile comment les esprits se meuvent et pourquoi on veut en fait s'opposer au père Teilhard. C'est alors que lui-même et les 4 provinciaux de France réunis se disent « Nous avons besoin d'un homme qui explique la véritable pensée du père Teilhard de Chardin ». Cet homme-là, c'était le père de Lubac, et en triple vitesse, il a rédigé ce volume qui est sorti en 1962.
Vous dites que vous venez de le revoir, peut-être parce qu'il est prévu dans le programme des publications du CERF que j'ai sous les yeux, « La prière du père Teilhard de Chardin », donc oui, qui était un livre écrit par le père de Lubac.
C'est pour une autre raison, c'est parce que j'ai participé à un colloque sur le père Teilhard de Chardin, puisqu'on vient de célébrer le cinquantenaire de sa mort en 55 à New York. Mm-hmm. Et alors on m'a demandé de faire un topo sur la pensée du père Teilhard relative à la science. C'est cela qui m'a amené à revoir ce livre du père de Lubac qui est tout à fait fondamental pour ce sujet-là.
Alors, nous attendrons début 2007 pour pouvoir vous lire, Père Georges Chantraine, sur ce sujet. Nous avons déjà évoqué tout à l'heure la figure de Paul VI, le pape Paul VI, et je voudrais vous lire une page écrite par le père de Lubac sur Paul VI. C'est une page un peu dure pour les jésuites de France, mais c'est une page très belle sur le pape, alors on ne peut pas y résister. Tout au long de son pontificat, Paul VI a souffert de l'attitude autodestructrice à laquelle il se heurtait à l'intérieur de l'Église. Citation, « Nous ne nous attendions pas, dit-il un jour de 1974, à ce phénomène d'inquiétude intolérante et même de subversion souhaité par les gens de notre maison. » Fin de citation. Or, continue le père de Lubac, la vérité m'oblige à dire que dans une conjoncture si grave, malgré quelques rappels de notre père général, la Compagnie de Jésus en France n'a pas joué le rôle qui lui revenait. Par beaucoup de ses membres, placés quelquefois au plus haut poste d'influence, elle a joué le rôle inverse. Par leur hostilité constante à la papauté, sous des formes tantôt violentes et tantôt méprisantes, ils ont accéléré cette subversion que déplorait Paul VI. J'ai vu, lu, entendu trop de choses que je préfère ici ne pas dire pour que le plus habile plaidoyer puisse jamais modifier mon jugement à cet égard. Critique du père de Lubac est tout de même assez dure, n'est-ce pas, père Chantraine?
Oui,
mais elle est justifiée. Historiquement parlant, je veux dire,
oui,
maintenant on a un recul historique.
Il a suivi. Si vous me le permettez, j'ajouterai une petite chose, à savoir que ce qu'il a fait souffrir après le Concile, c'est l'inverse de la situation de 1950. Il s'était heurté à une droite revancharde, puis-je dire. Il se heurte maintenant à une gauche qui est aussi intolérante parce qu'elle veut annexer l'esprit du Concile, quoi qu'il en soit de ce que le Concile lui-même a dit. C'est l'esprit contre la lettre, si je puis dire, ou sans la lettre.
Donc une autre forme de souffrance pour lui,
Il m'a dit bien plus terrible, parce que ça ne l'affectait pas lui seulement, mais qu'il voyait s'étendre dans l'Église entière.
Alors à cette critique contre la Compagnie de Jésus, dure, il faut bien l'avouer, le père de Lubac écrit tout de même en note dans son ouvrage « Mémoire sur l'occasion de mes écrits », il est bien clair que c'est beaucoup, c'est-à-dire ces membres de la Compagnie de Jésus, beaucoup furent par rapport à l'ensemble un petit nombre et que ma confiance filiale et globale envers la Compagnie de Jésus n'en a pas été atteinte. C'est ce que vous disiez, monsieur de la Rosière, c'est un homme, le père de Lubac, qui a fait vœu d'obéissance et ça n'a pas été une parole en l'air, n'est-ce pas?
Absolument. Moi, ce que j'ai admiré chez le cardinal de Lubac, parmi beaucoup d'autres choses, c'est ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la fidélité qu'il a toujours manifestée à l'égard non seulement de l'Église, mais aussi de la Compagnie de Jésus. Mais en même temps, c'est sa liberté. Car vous avez parlé tout à l'heure, en début d'émission, de ce qu'il a écrit et fait pendant la guerre. Il est assez remarquable que sa participation à Témoignage chrétien a été, sinon précédé, parce que chronologiquement c'est pas tout à fait ça, mais a été accompagné d'une sorte de mise en garde à l'égard de ses supérieurs. Il ne voulait pas écrire sans avoir à l'avance, en quelque sorte, montré ce qui était son sujet. Et alors il a écrit le 25 avril 1941 ce que moi je considère être un morceau d'anthologie, ce sont quelques pages, ça s'appelle « La lettre à mes supérieurs ». C'est là où j'en viens à ce que vous disiez. Et cette lettre à ses supérieurs devrait être lue, à mon avis, dans les anthologies des écoles françaises. Le père de Lubac dénonçait avec beaucoup de vigueur et de courage, avril 41, ce qu'il appelait le virus hitlérien. Alors je cite une phrase seulement. « L'hitlérisme commence premièrement de nous imposer ses méthodes et ses idées, disons plutôt ses passions, en même temps d'asservir l'Église. » Alors, écrire ça à ses supérieurs en avril 41, ça montre aussi que, bien qu'il fût respectueux de ses supérieurs, il n'hésitait pas, il n'a jamais obtenu de réponse à cette lettre. Hein, mais
il l'a tout de même dit.
Il l'a dit, et puis il s'est embarqué dans l'aventure du témoignage chrétien.
Je voulais aussi vous lire ce passage, parce que je l'avais trouvé très beau, que le père de Lubac cite, donc il cite dans Mémoire sur l'occasion de mes écrits, un morceau de l'homélie du pape Jean-Paul II, que Jean-Paul II a prononcé pour la messe anniversaire de la mort de Paul VI, pour montrer la souffrance de ce pape, parce que tout de même on a connu cette époque-là. Le second successeur de Paul VI a dit très justement que « sa grandeur trouve son fondement dans le mystère de la croix du Christ. Il n'a pas seulement porté la croix dans ses mains, comme chaque vendredi saint au Colisée, mais aussi dans son cœur en toute sa mission. Il a été l'apôtre du crucifié, comme le fut saint Paul. Il a connu les insultes, les crachats, la tristesse, l'angoisse. Il en a surmonté l'épreuve par la prière, par la confiance inébranlable. Aux épreuves intérieures et extérieures de l'Église, il répondait avec cette inébranlable foi, espérance et charité qui faisait de lui le Pierre de notre temps, la grande sagesse et l'humilité qui accompagnaient cette foi et cette espérance les ont rendus ainsi fermes et inflexibles. » C'est un magnifique portrait de Paul VI, prononcé par Jean-Paul II et repris par le père de Lubac dans son ouvrage. Alors, père Chantraine, le jugement du père de Lubac sur l'après-concile, l'après-concile fut un temps, et il l'est encore, d'opposition systématique et multiforme à la papauté.
Il ne faudrait pas se limiter à cela, parce qu'il m'a dit et répété qu'il y avait aussi partout des surgissements de l'esprit, visibles non seulement dans des mouvements nouveaux de l'Église, mais par une réaction du tissu conjonctif qui fait que les chrétiens, quand ils sentent une telle opposition, réagissent, et s'affermissent dans la foi.
Dieu vous entende. Nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons avec Jacques de la Rosière et Georges Chantraine.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémois, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Academy vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Retour dans notre studio pour terminer cette évocation du parcours du cardinal de Lubac. Tentons de terminer ce parcours en essayant de résumer sa position. Père Chantraine, comment pourrait-on aujourd'hui présenter, par exemple, à des jeunes qui voudraient s'intéresser, comment pourrait-on dire qui est le père de Lubac ?
Peut-être qu'on pourrait commencer par le titre du volume d'hommage qu'on lui a rendu et qui s'appelle « L'homme devant Dieu ». La première chose, je reviendrai sur ce que j'ai dit sur le surnaturel, c'est vraiment qu'est-ce qu'il meut le père de Lubac, c'est d'avoir été choisi, comme il le dit, par Dieu. C'est cette relation immédiate de l'esprit avec son créateur et sauveur. C'est cela, deuxièmement, qui lui permet de comprendre avec objectivité que ce soit un écrivain sacré, ou que ce soit Auguste Comte ou Sartre, qu'il ne doit guère citer du reste.
Plutôt Kierkegaard, voilà.
Kierkegaard, oui. Il y a, comme le disait M. de la Rosière, une liberté chez lui qui fait qu'il peut adhérer à tout ce qui est de vrai dans ce qui est dit, et du même coup, en étant tout à fait sympathique, c'est un mot qui est de lui, également dire ce en quoi il estime que l'auteur ne rend pas compte de la vérité. C'est la troisième chose que je dirais, c'est un homme qui, comme la petite Thérèse de Lisieux, du reste, vit sous la vérité. Le cardinal Ratzinger l'a bien dit dans le texte que vous avez cité. C'est la raison pour laquelle il est aussi libre. Il peut dire, comme M. de la Rosière l'a dit à ses supérieurs, exactement ce qu'il a, non pas sur le cœur, mais dans le cœur, c'est une parole de Teilhard pour le coup, n'est-ce pas ? Parce que c'est ainsi que la vérité se manifeste, et la terre, c'est presque inévitablement entrer dans le mensonge. Je me souviens d'une remarque qu'il avait faite à ma mère, du reste, madame, ne pas dire cela serait mentir. Et peut-être la dernière chose que je dirais pour répondre brièvement à votre question, c'est que c'est un homme qui n'avait pas de disciples, ne voulait pas avoir de disciples, qui n'a pas formé une école, mais où des gens aussi différents que Éric de Moulin-Beaufort, qui est un prêtre du diocèse de Paris, ou l'abbé Kwak, qui est un sud-coréen, trouvent réponse à leurs questions. C'est un homme qui dit des choses vraies, sans un langage d'école, de telle manière que tout homme qui lui-même se pose des questions trouve une consonance entre la question qui se pose et la réponse qu'il désire trouver, et ce que le père de Lubac dit. Voilà comment je résumerai grosso modo
le père de Lubac. Donc un homme d'une grande vérité, d'une grande liberté d'esprit. Est-ce qu'on pourrait dire aussi un homme d'une grande clairvoyance? C'est-à-dire, était-il un peu, au fond, prophète pour ce que nous vivons maintenant? Bon, il est mort il n'y a pas si longtemps, mais enfin, quand il note, par exemple, un risque d'affaissement spirituel de notre époque, est-ce qu'il a raison?
Oui, certainement. Clairvoyance est un bon mot. Ça me rappelle une parole du pasteur Bögner qu'on citait, n'est-ce pas? Son regard. Il avait un regard d'une transparence qui n'était pas simplement un beau regard, comme on en dit dans les romans, mais il voyait les choses bien longtemps à l'avance parce qu'il les voyait elles-mêmes. Et c'est en ça qu'il peut répondre aux questions que les gens se posent, non seulement parce que pour certaines il les prévoyait, mais simplement parce qu'il les voyait, en sorte que ce que beaucoup ne voient pas, lui les voyait, et c'est cela qui suscite la réponse d'un certain nombre de gens qui ont des questions et qui trouvent là une connivence profonde avec l'œuvre et la pensée du père de Lubac.
Père Chantraine, il me reste à vous remercier infiniment. Monsieur de la Rosière, je vous remercie également. Je voudrais rappeler que les œuvres complètes du cardinal de Lubac sont publiées sous la direction du père Georges Chantraine aux éditions du Cerf. Ces œuvres complètes devront donc constituer 50 volumes. 50 C'est bien volumes. Ça qui est prévu. Hein, oui. Selon un plan d'ailleurs défini par le père de Lubac lui-même.
Oui.
Parce qu'il avait prévu l'édition en italien et que vous vous êtes aligné sur cette,
exactement, oui.
Sur ce plan. Nous n'avons aujourd'hui évoqué que quelques-uns de ses ouvrages, donc « Le drame de l'humanisme athée »,« Résistance chrétienne au nazisme »,« Mémoire sur l'occasion de mes écrits ».
Mais
voilà, « Surnaturel », voilà tous ces livres que l'on peut, grâce à vous, effectivement lire aujourd'hui. Et puis, je voudrais citer l'adresse de l'association internationale Cardinal Henri de Lubac. C'est toujours l'adresse 128 rue Blomet, dans le 15e arrondissement de Paris.
Tout à fait.
Et nos auditeurs trouveront sur le site de Canal Académie les références précises pour faire parvenir des dons à cette association, dont on a compris qu'elle se chargeait de la publication scientifique des œuvres du père de Lubac. Et je voudrais citer aussi une revue que le père Chantraine vient gentiment de m'offrir, qui est La Nef, c'est-à-dire le mensuel catholique. Catholique et indépendant, c'est marqué, hein, dont le numéro de juin 2006 est consacré au cardinal Henri de Lubac, de la tempête au silence, du silence à la lumière. Jolie formule pour terminer cette émission en hommage au père de Lubac. À bientôt.